Le théâtre, le théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre?
Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
Pièce détachée.
Il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre.
Sur Radio Campus Paris.
Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Faut pas être exclusif.
Nous sommes sur Radio Campus Paris pour une émission spéciale été festival des pièces détachées avec Guigui, Camilla, Julien et Alice.
Et Festival d'Avignon, hein.
Oui, oui, spécial Festival d'Avignon, évidemment. Alors voici, nous sommes au début de notre marathon à Avignon et en ce moment on vous parle du bar du Théâtre des Dons avec Guigui. Donc on s'est réveillés tous les deux à l'aube. Guigui il a bien pris un train à 6h du matin, mais bon, on était bien sur les ponts pour voir notre première pièce à 13h ici au Théâtre des Dons, la pièce Héritage de Cédric Heckroot. Je dirais ça, non?
Oui, je dirais ça. Mais c'est un ami belge, hein, de Namur. Donc, Heckroot, je dirais, oui.
Voilà, donc très bien. De quoi parle cette pièce, Héritage? Donc, cette pièce parle de la mère de Cédric Heckroot. Cédric décide de raconter la vie de sa mère depuis sa naissance dans sa famille jusqu'à aujourd'hui. Sa mère est sur scène avec lui. Et donc, il raconte la vie de cette femme qui était coiffeuse. Elle a eu un salon de coiffure, donc à partir de ses 20 ans, si je ne me trompe pas. Donc, en Belgique, en Namur. Elle s'est mariée, donc elle a eu 4 enfants. Bon, ben, je ne vais pas vous raconter toute la vie de cette femme, mais je ne sais pas ce que tu en pensais, Guillaume. Mais moi, je me suis sortie complètement bouleversée. Je pense qu'on a trouvé la meilleure pièce du festival. Qu'en penses-tu?
Oui, on n'en a vu qu'une, donc pour l'instant, c'est clairement la meilleure. Donc, Cédric nous parle donc de sa maman, hein, donc qui qualifie, et on sera tous d'accord avec ça, d'héroïne moderne. C'est une histoire, parce qu'elle elle s'occupe de ses enfants, elle est seule, parce que le papa se barre et puis va voir ailleurs. Et il nous raconte cette histoire et c'est sans aucun apitoiement. C'est très joli, il y a de la musique avec une pianiste qui est chanteuse sur scène, donc une troisième personne. Et moi j'ai trouvé ça très touchant. Et je me répète sans apitoiement et puis en même temps en racontant des choses simples et qui parlent à tout le monde. Donc on tombe pas dans le drama habituel des pièces de ce type-là. Donc moi ça m'a beaucoup plu et je dirais oui, je vous le conseille vraiment. Mais Camilla, qu'est-ce que tu en as pensé d'autre?
Alors oui, moi j'étais très touchée par ces liens mère-fils qu'on voit sur scène, par les personnages, donc des femmes fortes de la mère qui arrivent comme une battante, comme ils disent en fils, à refaire sa vie après son divorce, à faire reconstruire une maison. Elle arrive malgré le fait qu'elle se retrouve, donc c'est une femme qui n'a pas vraiment fait d'études, mais qui a eu son salon de coiffure. Elle veut par contre pour ses enfants les meilleurs, donc elle les inscrit dans un collège des jésuites. Elle est entourée par des médecins, ils sont entourés par des médecins, des fils d'avocats, et donc elle se retrouve dans ces milieux très bourgeois, alors qu'elle n'est pas, elle ne vient pas forcément de ces milieux-là. Et donc, j'ai trouvé que c'était très touchant d'entendre, et aussi très beau d'entendre comment cette femme est a toujours su être soi-même sans vraiment essayer de se déguiser, de se mêler à ces bourgeois des Provence, habillée comme Cédric Heckroot dit, comme cette femme habillée en sapin. Il dit bien ça, non?
Oui, c'est comme ça qu'il parle des femmes bourgeoises qui sont habillées en sapin, avec toutes les décorations. Et donc c'est vrai qu'elles sont absolument... Elles ont même tendance à se moquer de la maman de Cédric. Hein, et en disant qu'elle est habillée à chaque fois avec des talons aiguilles et puis de toutes des vêtements de toutes les couleurs, mais en fait non, elle s'affirme, elle est originale. Et puis comme dit son fils, en fait c'est une coiffeuse, mais bon, comme toutes les coiffeuses, c'est une artiste, c'est une créatrice. Donc voilà, non, c'est une très belle pièce. À noter évidemment l'épisode fabuleux de Cédric qui fait du playback sur Madonna dans son école jésuite, c'est extraordinaire. Non, voilà.
absolument extraordinaire. Je pense que c'est vraiment la pièce à ne pas rater au festival. Et oui, effectivement, la présence de la pianiste sur scène s'ajoute vraiment quelque chose. Et en plus, cette pianiste, on ne la remarque pas au début. On voit cette troisième personne sur scène, cette quatrième personne sur scène, parce qu'il y a aussi une autre fille qui s'occupe des sons à côté. Et on ne sait pas ce qu'elle va faire. Et à un certain moment, elle commence à jouer du piano. Il est bien caché sous la table. J'ai trouvé cette... Donc, j'ai trouvé tout ce que... Oui, tout ce dispositif très, très bien pensé. Et en plus, au niveau de la... du décor, à un certain moment, on voit tous les objets que la mère avait achetés pour sa nouvelle maison avec son mari.
Mais attention, et donc, Camilla, attention Camilla, de ne pas trop en dire quand même.
C'est vrai, c'est vrai.
Là, on est en train de... Pour oui, nos amis c'est vrai. De Radio Campus, hein, qui est quand même...
On ne vous dit pas plus. Venez voir Héritage de Cédric Heckroot au Théâtre des Dons. On commence avec les pois des fourmis. Les pois des fourmis que vous pourrez voir du 4 au 21 juillet à 10h au Théâtre de la Manufacture. C'est une mise en scène de Philippe Cyr à partir d'un texte de David Paquet avec la compagnie du Théâtre Bluff. Alors, donc, l'histoire. Nous sommes dans un collège, quelque part, au Canada. Au centre du plateau, on voit un carré entouré des boules noires. Et au centre du carré, un homme et une femme, une chemise hawaïenne. Ce sont les directeurs et une enseignante du collège. Donc, suite à un mauvais classement, les directeurs se retrouvent à pouvoir organiser un événement inédit dans le collège, la semaine du futur, pour pouvoir améliorer les compétences transversales des élèves. Dans le cadre de cet événement, les élèves, ils vont devoir élire un représentant. Et 13 élèves vont se présenter. Mike, les populistes qui proposent des pizzas à tout le monde, Jeanne, jeune militante à anti-publicité, et Olivier, un élève timide et angoissé par l'état du monde. Alors, c'est une pièce que je trouvais extrêmement drôle et touchante sur une jeunesse impliquée qui se bat contre une malédiction qui semble inévitable, le réchauffement climatique en particulier. Alors, une pièce qu'il faut absolument voir pour retrouver un élan face aux défis actuels. On voit des comédiens, on voit sur scène des comédiens très drôles. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Guillaume, mais moi, j'ai littéralement adoré cette pièce. Elle est satirique, mon ton douce et nous redonne la patate. Voilà, je pense qu'il ne faut absolument pas la rater. Qu'en penses-tu ?
Oui, non, je suis d'accord avec toi. En plus, je pense qu'il faut emmener, pas hésiter à emmener des enfants, je pense dès 10 ans, je ne me rappelle plus à partir de quel âge ils annoncent cette pièce. Mais c'est très rigolo. Bon, moi, évidemment... voilà, bon, moi, l'accent québécois me fait beaucoup rire et puis ils sont très drôles. Et donc allez-y. Et en plus, l'endroit est assez magique, c'est dans la patinoire d'Avignon. Donc ils ont installé ça au milieu de la patinoire et c'est... enfin voilà, allez-y.
Oui, absolument, on n'est pas raté, les pois de fourmis à 10h à la manufacture. Donc, on passe maintenant à Vive, que vous pouvez voir à Trésor Vent, les jours impairs, au Théâtre du Tremble, du 2 au 21 juillet. Un texte de Joséphine Chaffin, une mise en scène de Clément Carabédien et Joséphine Chaffin. Alors, donc, cette pièce part d'inceste dans une famille qui aime la bonne cuisine. C'est l'histoire d'Anaïs Lacascade, jeune chef cuisinière, qui, après 14 ans de silence, ose dénoncer son père pour avoir abusé d'elle dès ses 7 ans à ses 14 ans, les jours où l'a mordu. Donc c'est le parcours d'une combattante, d'où la belle affiche, où on voit une jeune femme avec une émaille de chevalier. Est-ce que tu veux ajouter des choses, des détails sur l'histoire? Parce que donc on se retrouve, au début de la pièce, on se retrouve dans les procès de Louis Lacascade. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur les personnages du père, Guillaume?
Non, bah alors le père, évidemment, c'est un grand chef, un cuisinier. Qui est donc un chef étoilé, donc un personnage intransigeant toute sa vie, et la vie de sa famille, comme il aime à le répéter, tourne autour de la cuisine. Et donc il va former sa fille, il a plusieurs enfants, mais il va former particulièrement sa fille, chez laquelle il a détecté un don, donc un don pour la cuisine, et puis également bon, c'est une excellente élève. Et donc on voit comment il va la former, mais évidemment de manière assez violente, assez militaire. Et en même temps, toute cette relation, donc c'est une relation d'amour-haine, de violence, très violente, va ensuite se terminer avec cette histoire d'inceste hein, qui est assez terrible. Pour ma part, bon, évidemment, quand je vois cette pièce et le traitement du sujet qui est très grave, donc c'est toujours difficile de discuter, de critiquer des pièces comme ça, mais le traitement de l'inceste, je trouve, est très bien fait, mais peut-être manque de complexité. C'est-à-dire, en fait, on met un peu plus en avant, plutôt que de mettre en avant l'acte immonde du père et la famille qui protège finalement le père et le commerce du père, donc le restaurant. Ce que je trouve, bon, ça c'est très très bien fait. Il y a toute la partie, je trouve, où l'espèce de côté terrifiant où l'enfant va envoyer en prison son père, qui est le père incestueux. Et ça, cette partie, je trouve qu'elle n'a pas été peut-être vraiment été évoquée dans la pièce. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Non, moi, je trouve qu'on voit... moi, je trouve que cette pièce est effectivement bien parce qu'on voit toute la complicité de ces crimes, donc l'inceste qui se développe quand même dans... effectivement, qu'un enfant subit d'une personne qui aime. Donc, on voit effectivement la relation d'affection d'Anaïs et de son père avant l'inceste. Et je trouve que dans cette pièce, au contraire, je ne la pense pas comme toi, Guillaume, je trouve qu'il n'y a vraiment pas de manichéisme dans cette pièce, qu'il y a plein de nuances, que tout est très bien dit, il y a vraiment une finesse dans la construction de la pièce. Et j'ai trouvé, moi j'étais particulièrement touchée par la beauté et la force du texte, que je trouve vraiment incroyable. C'est un texte qu'on aime bien entendre. Et donc il y a plusieurs passages que j'ai vraiment adorés, comme par exemple le passage où Anaïs évoque le fait que pour un miroir cassé, il y a cette arme de malheur, parce qu'elle est en train d'étudier les Alexandras la première fois qu'elle s'est fait abuser par son père, et 7 ans de malheur aussi pour un Alexandra pas fini, et 7 ans aussi pour 7 ans de malheur aussi pour les diamants de l'enfance cassés.
Oui, alors donc je vois qu'on n'est pas d'accord, mais c'est peut-être l'occasion pour nos auditeurs de Radio Campus d'aller voir la pièce pour se faire leur propre avis.
Oui, moi je trouve que c'est vraiment une pièce à voir.
Oui, non, c'est à voir, c'est sûr. Et puis le sujet est important.
Oui, absolument, très important.
Voilà.
N'hésitez pas. Autre en bleu, à 13h20, tous les jours un pair. Et maintenant, on part des bunkers que vous pouvez voir du 2 au 21 juillet à 15h35 au Théâtre 11 Avignon. Donc, ce spectacle est conçu et mis en scène par le collectif Supermass, un collectif artistique européen fondé en 1999 qui articule son travail sur une réflexion critique de l'environnement sociopolitique contemporain et une recherche formelle sur la représentation théâtrale et ou médiatisé. Donc cette pièce, c'est une pièce enquête du collectif Supermass sur les dégâts qu'un naturopathe peut provoquer. Ça vous est sûrement déjà arrivé de vous retrouver avec un proche qui, suite au conseil d'un expert, une sorte de pseudo-scientifique, ou mieux un charlatan, modifie son régime alimentaire dans l'espoir de résoudre un problème physique ou physiologique. Voilà, c'est un peu arrivé à tout le monde, je pense. Et c'est exactement de ça qu'on va parler dans cette pièce, d'un épisode comme ça, mais avec une suite bien tragique. Donc, Supermass mène l'enquête et nous amène dans les entrailles cachées de ces charlatans et découvrons des aspects encore plus sombres qui se cachent derrière ces discours sur la santé, sur la nature, sur les corps, derrière des mots comme médecine quantique, etc. Donc, c'est une pièce que moi... C'est vraiment un de mes coups de cœur à Avignon. C'est une pièce très bien ficelée, avec un rythme soutenu. Il y a plusieurs registres qui sont présents dans la pièce et qui donnent à la pièce un caractère très original. Voilà. Pour moi, c'est un sujet extrêmement de grande actualité qu'il ne faut pas négliger, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de... C'est quelque chose dans lequel on peut tomber. Et je trouve qu'il y a aussi la mise à l'abîme utilisée par le collectif Supermass pour nous montrer ça, c'est absolument extraordinaire. Alors, je suis sortie choquée par la pièce, hein. Choquée dans le bon terme, dans le bon sens du terme. Oui, et non, toi, Guillaume
étais... Alors oui, donc toi, tu étais choquée. Bon, moi, peut-être un peu moins, encore une fois, je suis désolé, je suis vraiment négatif, mais non, j'ai bien aimé. Donc en fait, on suit quand même l'histoire de cette actrice. Hein, de Sous le soleil. Donc je crois qu'elle est vraiment actrice de Sous le soleil ou un plus grand soleil, enfin je ne me souviens plus, mais des trucs qui passent après les infos.
Pauline Paolini.
Voilà. Et donc elle va nous raconter l'histoire de sa sœur, effectivement, qui est tombée à cause d'un naturopathe et qui va décéder pendant le traitement de son cancer, parce qu'elle va renoncer aux médecines modernes. Donc en fait, on est véritablement, pour dire aux auditeurs, dans un monde qui ressemble, enfin, dans une pièce qui ressemble finalement à un épisode de Envoyé spécial. Donc on va pas en rester là, on va aller chercher ce naturopathe et puis on va le mettre devant ses contradictions et puis voilà, on va... Voilà. Donc bon, je vous raconte pas tout, mais c'est vrai que c'est assez terrifiant. Pour ma part, moi j'ai évidemment des proches, enfin je dis évidemment, mais j'ai des proches qui sont tombés dans ces bêtises-là. Et c'est absolument terrifiant de voir à quel point en fait l'emprise de ces gens est importante. Et donc ça, effectivement, la pièce nous explique un peu les constructions mentales, le côté affectif qui joue énormément pour les personnes malades, chez les personnes malades. Et puis je pense que c'est exactement la même chose dans le monde politique au moment de voter. Il y a cette espèce de... Voilà, il nous explique le cerveau droit, le cerveau gauche, qui fait quoi. Comment parler aux gens pour pouvoir les convaincre. Alors bon, rassurez-vous, ça ne m'a pas convaincu de devenir naturopathe, hein, pas du tout. Mais en tous les cas, c'est une belle pièce, je dois dire. C'est une très belle pièce. Je vous recommande d'aller la voir. Voilà, finalement,
oui,
je suis d'accord avec
Camille. Ne ratez surtout pas Bon Cœur au Théâtre 11 Avignon.
Sur le pont d'Avignon, on y danse. On y danse sur le pont d'Avignon. On y danse tous en rond.
Voilà, maintenant on va parler de Pouvoir, donc qui passe au Théâtre des Dons du 3 au 21 juillet. C'est à 15h30. Hein, donc vous aurez noté qu'on fait tout dans l'ordre. On est en train de vous préparer une journée avec 17 pièces. Donc pouvoir, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un spectacle, tout d'abord, donc des marionnettes de table. Alors, c'est dès 10 ans, hein, donc on peut y aller, c'est bien pour les enfants, c'est assez rigolo.
Non, moi je ne suis pas d'accord, il y avait beaucoup d'enfants, mais je trouve que ce n'est pas vraiment une pièce pour enfants. Hein.
Ce n'est pas une pièce pour enfants, mais ça reste quand même rigolo, parce que la marionnette de table, pour ceux qui l'ignorent, comme moi je l'ignorais, c'est un petit personnage, une marionnette, hein, avec les bras qui plient, voilà, la tête qui peut bouger, et puis la petite bouche. Et puis, il y a trois personnes, donc c'est un art japonais, trois personnes qui la manipulent. Donc, la partie principale, le plus important, manipule la tête et le bras gauche. Et ensuite, une personne manipule le tronc et le bras droit, et ensuite les pieds. Les trois personnes sont habillées en noir, on ne les voit pas. Et donc ça, c'est le début, c'est le point de départ de cette pièce. Et évidemment, ce petit personnage, c'est le roi d'une nation. Et puis voilà, il vient voir, il vient se... je ne sais pas vraiment l'histoire, c'était quoi. Il venait voir son peuple pour demander je ne sais pas quoi. Mais peu importe. Le comportement, ça c'est le côté enfant. Évidemment, le petit personnage bouge dans tous les sens et c'est quand même assez incroyable de voir comment ils sont coordonnés. Alors vous allez me dire, gna gna gna, c'est très technique, mais je trouve ça assez bluffant. Parce qu'on a des moments, ça part dans tous les sens, enfin c'est très joli. Alors évidemment, ça c'est le point de départ, parce que c'est pas ça dont parle la pièce, Pouvoir. Ce dont ça parle, c'est plutôt à un moment, en fait, qu'est-ce qui se passe quand votre personnage, votre marionnette, est plus du tout d'accord pour faire ce que vous lui demandez de faire. Parce qu'elle en a marre. Elle en a marre de se balader dans une caisse et pour aller de représentation en représentation. Elle en a marre de jouer tout le temps le même roi et puis elle en a rien à faire. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on vote. Voilà, dans la pièce, on vote. Donc, ils vont voter, les trois marionnettistes et le personnage, pour savoir ce qu'on va décider de faire. Donc on part dans de l'improvisation, puis après on revote parce qu'on on veut faire participer également le public. Et donc les gens, évidemment, votent allègrement pour la petite marionnette. Mais peut-être que cette marionnette est démagogue, peut-être que ce vote, finalement, est dangereux. Donc évidemment, vous me voyez venir avec mes gros sabots, on va questionner la démocratie. on va questionner le vote. Où est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut faire évoluer la société par le vote? Et bon, moi j'ai trouvé ça intéressant. Alors effectivement, toutes les questions sur le vote ne vont pas passionner nos jeunes amis de 10 ans. Mais j'avais vraiment l'impression que c'était un spectacle à tiroir avec plusieurs niveaux de lecture. Et je me suis à la fois bien amusé parce que j'ai un petit cœur d'enfant de 10 ans. Et puis ensuite, j'ai un petit peu réfléchi parce que j'ai un tout petit cerveau de personne de 43 ans. Donc voilà, donc c'était très bien. Moi, je vous recommande d'y aller. Camilla, toi, t'en as pensé quoi ?
Alors moi aussi, je trouvais qu'il y avait des moments très beaux dans ces spectacles. Effectivement, il y a cette marionnette... Cette marionnette qui est assez incroyable, guidée par ces trois marionnettistes. Mais je trouvais que ça manquait un peu. Je trouve que les rythmes n'est pas assez soutenu, qu'il y a certaines longueurs. Et aussi les discours sur les pouvoirs. J'ai trouvé que ça n'allait pas jusqu'au bout. J'ai trouvé que ça commençait, mais finalement, ça n'arrivait pas. Ça ne nous conduisait pas à trouver des choses. Voilà, on ne sortait pas des discours communs sur les pouvoirs. Donc oui. J'aurais bien aimé avoir quelque chose d'un peu plus poussé.
Je suis d'accord. Alors après, peut-être que Camilla, toi, ce que tu n'aimes pas trop, c'est ces espèces de mise en abîme, hein. ce côté où en fait le spectacle s'arrête,
le
s'effondre,
et puis spectacle.
Voilà le spectacle. Voilà, c'est, oui. Ça, on a beaucoup eu ça. Et là, effectivement, il y a beaucoup de métaspectacles. Et puis il y a évidemment les temps morts qui sont évidemment dus au fait que, inéluctablement, il va falloir réinventer. Enfin, au moins, c'est ce qu'ils prétendent, le spectacle en direct. Donc ça, effectivement, ça crée des lourdeurs. Mais bon, des lourdeurs peut-être indispensables. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très bien. Voilà. Donc, je vous recommande.
Donc, allez-y vous faire votre avis au Théâtre des Dômes à 15h30.
Passe à Cicatriciel, donc c'est au Théâtre 11 à Avignon, toujours évidemment, c'est du 2 au 21 juillet, et c'est un texte de Sarita Vincent Guillot, mise en scène par Yann Dacosta, et c'est avec Vincent Belet, parce que alors, évidemment lui, on est obligé de parler de lui, hein, c'est un seul en scène, il est magnifique, et avec Anne-Laure Labaste, qui est en arrière, et qui va faire finalement la musique et l'habillage sonore qui est superbe. Donc évidemment, là, au début de la pièce, on se retrouve avec cette personne, Sarita Vincent, parce que c'est sa propre histoire, qui est sur un lit d'hôpital avec à l'arrière des plantes qui s'avèrent être en fait son occupation, Yel, parce que c'est une personne intersexe, et en fait assez balèze avec les plantes. Et elle va nous raconter son histoire. Et c'est une histoire assez glaçante. L'histoire en fait d'un tabou, l'intersexualité. Donc c'est quand la personne naît avec une indétermination de sexe. Et ce qui est assez terrifiant, c'est de voir la réaction en fait de la société face à ce personnage, alors que ce soit les parents qui vont à moitié l'abandonner, même carrément l'abandonner dans un premier temps, ensuite les tortures faites par le corps médical. Finalement, la lumière sur cette pièce m'est venue, enfin si on peut dire, à l'écoute de la lecture le dernier jour qu'on a été voir là, d'Angelica Lidl, qui disait que finalement, le tabou va révéler un peu l'état de notre société. Et là, l'intersexualité, c'est un tabou gigantesque, on s'en rend bien compte, parce qu'on n'en parle jamais. Et on voit ce personnage, alors qui est interprété par un Vincent Belet, absolument extraordinaire. Cette personne est à la fois... Enfin, cet acteur est à la fois noir, mort d'une noirceur, d'une une maigreur, un côté sec, et en même temps un humour noir. Et c'est vraiment une personne... Non, c'est une pièce que j'ai beaucoup aimée. Évidemment, on ne va pas aller vous raconter tout autour de ça, mais comment cette histoire qui semble l'histoire de quelqu'un qui, dont on n'entend jamais parler, parce que Yael pense être en fait seul au monde pendant des années, avant de devenir l'un, alors je sais pas comment on dit, l'une des représentants internationaux sur le sujet, et qui a permis de regrouper des communautés intersexes afin de permettre à ces gens de communiquer. Enfin bon, c'est clairement une pièce
de se retrouver, de militer ensemble,
de militer, et puis oui, de d'exister, puis de trouver un discours commun, et puis comment en fait, enfin je veux dire, clairement cette pièce participe auprès de gens comme moi et j'imagine toi Camilla, à se rendre compte de l'état de la société qui part très souvent et pas du tout suffisamment avancé, et puis projette des individus dans des vies catastrophiques. Bon, malgré l'humour, hein, c'est quand même terrible, et donc ça fait vraiment réfléchir. Je sais pas, Camilla, toi t'en as pensé quoi?
Oui, mais moi je suis complètement d'accord avec toi. C'est une pièce extrêmement qui nous fait effectivement découvrir et nous interroger sur des sujets qui sont très importants, comme effectivement les sujets de l'intersexualité, et aussi donc comment la médecine traite tout ça. C'est vrai qu'effectivement souvent le corps médical a tendance à utiliser nos corps comme des voitures à réparer. Moi je trouve qu'effectivement face à l'histoire des Sarita, on peut être ému en découvrant comment cet enfant a eu sa vie complètement détruite par une médecine qui ne s'interrogeait pas sur ses actes, qui a envoyé cet enfant dans une vie cauchemardesque pendant des années, et face à ses parents qui ne pouvaient pas vraiment l'accompagner parce qu'ils ne se sentaient pas préparés, parce qu'ils ne se sentaient pas légitimes. Donc je trouve que c'est une pièce absolument très importante pour vraiment interroger les poids de la médecine face à ces sujets.
Oui, et encore une fois, de toute la société, hein, parce qu'après, les problèmes ne sont pas seulement médicaux, hein,
oui,
sont sociaux, sociétaux. Comment se passe effectivement une vie affective, comment se passe la vie amicale, enfin, donc tout cela se passe en Bretagne, ça pourrait se passer n'importe où. Je pense que de toute façon, on n'est tellement pas ouvert sur ces questions, et tellement, enfin, on se rend compte qu'on n'est pas du tout empathique comme on pourrait l'imaginer.
Dans tous les cas, n'hésitez pas à les voir Cicatriciel au théâtre 11 Avignon tous les jours à 17h.
Sur le pont d'Avignon, dans les lances,
Et on poursuit maintenant avec Kifesh 2.0. Donc c'est un spectacle de danse d'Oumar Diallo et avec la participation de Oumar Diallo lui-même et Israël Ngachi. Alors désolé Israël si je prononce mal votre nom de famille. C'est à 17h tous les jours au Théâtre des Dons. Donc c'est sur, là c'est plus dans la salle, hein, c'est dehors, sur l'espèce
c'est
de
garden party.
Garden party, quel mot chic et choc. C'est, on est un peu sous le soleil, il y a des arbres qui passent à travers la scène, c'est assez agréable. En tous les cas, on se retrouve avec nos deux danseurs qui sont issus de la culture. Alors évidemment, je ne connais rien parce que je suis complètement nul en danse. Je suis piètre danseur et piètre spectateur de danse. Mais là, on va avoir un mélange de hip-hop, de popping, de locking et de crump. Alors là, je ne pourrais pas vous dire. Le hip-hop, bon, peut-être un moment, ça chantait un peu de rap. Alors là, je suis vraiment très mauvais. Et puis le locking, peut-être un moment, lock, bloqué. Donc on reconnaissait un moment des pratiques un peu de clé de bras. Bon, en tous les cas, c'est très intense. On a ces deux danseurs qui, la plupart du temps, dansent sans musique. Et finalement, ils n'en ont pas besoin parce que tout cela est rythmé. Donc ils sont vachement à l'écoute l'un de l'autre, hein. Et puis leur danse est beaucoup rythmée en fait par leur souffle. Ça souffle beaucoup, ça souffle fort. Et puis c'est très très physique et très tactile, assez sensuel finalement. Alors moi ce que j'ai bien aimé évidemment, c'est qu'ils interpellent le public Hein, parce que donc on s'attend à aller voir notre spectacle de danse et puis à être bien tranquillou dans le public. Bon bah là, on est dehors, hein, il fait jour, on nous voit. Et ils viennent dans le public, ils interpellent, donc notamment en nous demandant bon, bah, si on est capable de voler. Bon, eux sont capables de voler, et ça c'est quand même leur grande force. Hein. En venant de Bruxelles, ils savent voler, je ne sais pas pourquoi je parle de Bruxelles, mais peu importe. Et ils nous parlent également de leurs racines africaines, donc ils continuent, comme ils disent, le voyage de leurs parents. Que dire ? Mon œil de non-initié a vu quand même une énergie. Moi, j'ai passé un bon moment. Je pourrais pas en parler plus techniquement, mais ça m'a plu. Donc moi, c'est plutôt un spectacle que je recommande. Les gens étaient assez étonnés. Je dirais pas choqués, mais ils étaient étonnés. Ils savaient pas comment réagir. Et ça, c'est un truc quand même que j'aime bien. Plutôt que d'avoir des flambis dans la salle, là, les gens étaient un peu interloqués. Puis ils étaient questionnés. Ils étaient obligés de répondre et d'avoir la présence des danseurs juste à côté d'eux. Donc une présence quand même assez massive, pleine de sueur, c'est quelque chose d'assez fort.
Intense.
C'est très intense, voilà. Et ça m'a clairement plu. Donc je dirais peut-être un tout petit bémol, c'est que j'aurais attendu peut-être encore plus. Mais je crois que c'est un peu le propre de cette scène Garden Party, c'est de montrer des petits échantillons. Il y avait les spectacles dans la salle à l'intérieur du Théâtre des Dons qui étaient plus en longueur. Donc voilà. Et là, ce sont des spectacles plus courts. Donc voilà. Je pense que ça, on aura à les revoir dans le futur pour des formats un peu plus longs. Et donc on a hâte. Toi, Camilla, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Alors moi aussi, j'étais très touchée par certains moments de ces spectacles. Mais à un certain moment, il y a eu des mots qui ont été déclarés dont j'ignorais complètement le sens. Je n'ai pas tout de suite aperçu. Oui. Je faisais des sortes de jeux des mots que je ne comprenais pas tout de suite. Et donc,
oui, alors, il y a un
message. Donc, pour moi, c'est le message de ce spectacle que je n'ai pas vraiment compris. Donc, j'ai trouvé que ces deux danseurs semblaient très talentueux. Mais il y a quelque chose, effectivement, je suis un peu mitigée. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu incomplet dans ces spectacles. Donc je ne suis pas exactement de ton avis, Guillaume. Voilà, moi je n'étais pas particulièrement impressionné.
Bon, alors disons que les jeux de mots dont tu parles, je ne sais pas si c'était au moment de son slam. Donc effectivement, oui, il y a des jeux de mots, mais ça fait partie, j'imagine, de la pratique. Ensuite, bon, et après le discours, c'est évidemment qu'ils affrontent un plafond de verre et ils sont obligés de marcher à quatre pattes en dessous. Donc ils veulent se faire leur place, j'imagine, dans la société, j'imagine, dans le monde de la danse.
Oui, mais je pense qu'effectivement, j'ai quelques doutes sur les pièces de danse où les danseurs prennent la parole pour parler. Je trouve que des fois, il y a quelque chose qui cloche. Voilà,
d'accord.
C'était
le cas là. Est-ce que ça signifie que tu penses qu'ils sont capables normalement de tout communiquer par la danse et que s'ils sont obligés de parler, oui, ce que je pense à ta place.
Je ne sais pas, je m'interroge.
Tu t'interroges.
Eh bien, mais bon,
restons sur ces interrogations et contactez-nous pour nous dire si vous avez des réponses. Donc on parle maintenant de Shahada, donc c'est un texte de, donc c'est au théâtre 11, c'est ça. C'est à quelle heure?
C'est à
18h45, voilà.
Oui.
Donc du 2 au 21 juillet, hein, théâtre 11. C'est un texte de Fida Moïsen, une mise en scène de François Cervantes. Et donc Shahada, qu'est-ce que ça veut dire en arabe? Ça veut dire à la fois témoignage. C'est également la profession de foi musulmane, et ça veut également dire martyr. Donc en fait, ces trois termes recouvrent exactement en fait la vie du protagoniste, qui il va raconter en fait sa propre vie, avec son départ de Syrie à l'origine. Donc c'est un fervent musulman, en même temps il est dans une famille où il va faire des études d'ingénierie. Il est également passionné par le théâtre, et donc c'est ce personnage, mélangé, qui va se retrouver finalement à s'entraîner dans un camp musulman pour ensuite aller faire la guerre en Bosnie. Et donc ça, il n'ira pas. Hein, donc le, voilà, l'histoire le dit, mais il a fait quand même la préparation, il raconte un peu l'ambiance dans ses camps, en Syrie, en plein milieu du désert, donc c'est assez impressionnant. Et ensuite, finalement, il va se retrouver à Paris, fervent musulman, donc il nous raconte comment sa vie évolue entre les études à l'université et évidemment des temps de prière à la mosquée de Paris. Et justement, sa vie va basculer à un moment en allant à la mosquée de Paris. Il va rencontrer l'amour et ça va lui faire en fait totalement changer de regard par rapport à sa religion qui lui interdisait jusque-là d'avoir des relations avec les femmes et qui surtout lui interdisait de ne pas se rendre à l'heure à la prière. Ensuite, il nous raconte, parce que ce personnage est intéressant, il est avignonnais finalement, où il va ouvrir un bar. Et il va nous raconter
un bar-restaurant,
exactement. Oui. Mais à un moment, ils vendent de l'alcool, oui. Mais le personnage, finalement, va nous raconter à quel point, et c'est là que c'est intéressant, parce qu'il a une discussion avec lui du passé. Donc on a laissé deux acteurs qui sont sur scène. L'un qui est actuellement l'avignonnais d'aujourd'hui, et qui parle avec lui du passé. Il ne reconnaît plus cette personne. Donc notamment, il va nous parler de ses réactions pendant les attentats du 11 septembre, donc qui était véritablement un élan de joie, une grande fête. Et puis il se rend compte, après sa transformation, qu'en fait, l'être humain qui désire être ne peut pas penser une telle chose. Et donc en fait, moi, alors là, pour la peine, je trouve ça très intéressant, parce qu'on a comment en fait se perdre dans un même personnage, des côtés totalement justifiés, assumés. On comprend pourquoi d'un côté il peut être enthousiaste à l'idée de l'effondrement des tours jumelles, comment il peut être déçu qu'il y ait moins de morts, et puis en même temps on voit sa transformation, sa mutation, et on comprend son parcours et sa transition, si on peut dire. Bon, c'est un peu un mot bizarre, mais moi j'ai trouvé ce spectacle très intéressant, en plus dans la forme, qui est d'une sobriété hallucinante. Le personnage est assis sur une chaise, il parle calmement. Je sais que ça n'a aucun sens, il pourrait peut-être hurler ou je ne sais pas quoi, mais je ne sais pas, il a vraiment un véritable talent de conteur. C'est quelqu'un que moi j'aurais adoré rencontrer et avec lequel j'aurais adoré discuter comme ça. Enfin vraiment, en tous les cas, une pièce, je suis ressorti, j'étais vraiment très, très positivement impressionné, et je vous conseille d'y aller. Parce que alors là, on a vraiment une belle complexité de personnages. Donc je ne sais pas toi Camilla, ce que tu en as pensé.
Oui, merci Guillaume. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, donc les deux comédiens arrivent à nous donner donc cet aperçu, cette complexité sur les changements, sur les fluctuations du positionnement du personnage, donc de l'auteur, des Fida. Et je trouve, cette absence des manichéismes et cette justesse dans le jeu donc, de l'auteur qui part sur scène, je trouvais ça très touchant. Et je trouve qu'effectivement, ça nous fait énormément réfléchir sur ce qu'une personne musulmane pourrait sentir en arrivant en France. Ah oui. Et donc, quand il cite cette phrase Welbeck, méprise complètement l'islam, on est complètement avec lui, on le comprend. Et oui, je trouve que c'est vraiment très, très, très touchant.
Oui, oui, vraiment, quand il écoute les propos de Welbeck, donc je pense que c'est à l'époque de Soumission, donc le livre de Welbeck, et qui critiquait ouvertement la religion musulmane, il se prend ça vraiment mais comme un poignard dans le front, donc l'auteur de la pièce, et il est absolument, enfin c'est une bête blessée, et donc il va passer son temps, donc ça il le dit très bien, à se défendre, et quand on passe son temps sur la défensive, on ne se rend plus compte que l'on blesse, ou que quand cela arrive. Donc il s'est vraiment réapproprié, enfin approprié la culture européenne, mais en gardant cette culture, parce qu'il a une immense culture, parce qu'il vient quand même d'une famille très
énorme pour la littérature,
pour les sciences, oui. Pour le théâtre. Enfin, c'est quelqu'un vraiment avec un espèce de savoir assez universel, enfin sans exagérer, hein, mais vraiment quelqu'un de très très ouvert, très voilà.
Très humaniste.
Et,
oui.
Voilà, et qui en fait. En toute sincérité, en fait, c'est ça que j'ai apprécié, c'est qu'il est très sincère et vraiment, il nous parle à cœur ouvert à toutes les périodes de sa vie et en pleine, enfin, vraiment une lucidité. Et je trouve que c'est vraiment son talent, c'est que, en fait, on est, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, on comprend l'articulation totalement de ses propos,
oui.
Même s'ils sont des propos avec lesquels on n'est pas d'accord. Et ensuite, le parcours de ce personnage, et, enfin, de cette personne, de cet Avignonnais, est très intéressant. Donc je vous conseille d'aller l'écouter.
À 18h45 au Théâtre 11, Avignon.
Absolument.
Sur le pont d'Avignon,
sur le pont d'Avignon, son y danse, l'on y danse, sur le pont d'Avignon, son y danse, l'on y danse, sur le pont d'Avignon, son y danse, l'on y danse.
Alors maintenant, on poursuit avec Sauvé Bâtard. Alors attention, parce que alors là, c'est du spectacle de super, super, super zinzin. Donc c'est à 20h30 au Théâtre des Dons. Donc toujours du 3 au 21 juillet, hein, vous avez compris, c'est pendant le festival. C'est un texte et une mise en scène de Timios Funtas. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un, il faut... Timios Funtas, il faut se rappeler de son prénom. Parce que
noter.
Là, c'est, faut noter, parce que c'est exceptionnel, hein, vraiment exceptionnel. Donc on est dans une espèce de futur, je ne sais même pas si c'est apocalyptique, enfin bon, il y a des particules dans l'air, enfin peu importe, mais on retrouve 4 personnages, tous en art. Donc on a donc Bâtard, Clébard, donc c'est un petit chien, Cafard, comme son nom l'indique, c'est un gigantesque cafard, et Clochard. Alors Clochard, bon, c'est un clochard, j'imagine, mais j'arrive pas bien à imaginer ce que c'était. C'est une espèce de peau de serpent sur la tête, et voilà. Et donc on est...
Il y a aussi Écart.
Écart arrive bien après,
oui,
bien
oui,
après.
C'est vrai,
ça,
c'est
il faut ménager, voilà, Écart, c'est un peu... Bon, je vais vous... Mais on va y arriver, Vous avez raison. Alors donc, Bâtard, il est jugé, en fait, parce pour un meurtre. Donc on comprend pas bien ce qui se passe.
On dirait que c'est la mort de lui-même.
Et on dirait que c'est la mort, c'est sa propre mort.
Parce que
ce qu'on comprendra assez rapidement, c'est que Bâtard, il a quand même pas mal de super pouvoirs. Alors déjà, il a méga la classe avec sa petite moustache. Ça, c'est assez incroyable. Bon, quand il arrive sur scène et tout ça, c'est vraiment Joe la classe. Hein, ça, on peut rien dire. Ensuite, il se défend à coups de rimes et de congélation du temps.
Oui,
il réussit à...
C'est un poète.
C'est un poète.
Oui.
Et mais il réussit également à physiquement ouvrir voilà, des trouées spatio-temporelles. Et il se passe des trucs pendant que tous les autres personnages sont immobilisés. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Donc ça, on est au milieu de problèmes de physique théorique ultra complexes. Mais en même temps, il y a de la drogue. En même temps, on rigole bien. Et... Voilà, il faut déclamer des vers, parce que lui, c'est un killer de vers. Parce que, ce dont on n'a pas parlé, alors bon, attendez, parce que j'ai quand même parlé de Écart, parce que Camilla a beaucoup, beaucoup aimé Écart. Écart, c'est le mec, c'est le macho.
Le mec des mecs.
Ouais, c'est le mec des mecs.
Moi, j'ai pas beaucoup aimé
Écart. Bah oui, bah, c'est pour ça que tu me l'as rappelé.
Bâtard,
tout le monde aime Bâtard, de toute façon, voilà.
Bah
moi, j'ai bien aimé Cafard, voilà. Non, c'est pas vrai, mais il y a Clochard que j'ai beaucoup aimé. Parce que Cafard, bon, il est toujours avec ses daco-daco, il est très rigolo, daco-daco, mais bon, enfin bon, peu importe. En tous les cas, arrive le super cool Écart, et là, en fait, va y avoir une espèce de love story entre Bâtard et Écart, le super beau gosse et tout ça. Et
il va. Ouais, qui prend des. Un travail parce qu'il prend des cours d'anglais.
Voilà, il prend des cours d'anglais parce que les autres sont vraiment voilà. Parce que évidemment, Bâtard n'a pas de travail. Il est poète, et ça, c'est pas considéré comme un travail. Mais bon. Voilà, c'est magnifique. Il enchaîne les rimes, les sorties et tout ça. Et c'est là qu'on en arrive quand même au gigantesque talent de Timios Funtas. Parce que, en fait, c'est une espèce d'audiard des temps modernes. Donc le texte était en vente, j'ai pas mis la main dessus bêtement. Mais en même temps, je suis certain que c'est bien mieux quand c'est récité par cette équipe de Déglingos. Et vraiment, Déglingos au sens positif du terme. Hein. J'ai vraiment apprécié cette pièce. On rigole, c'est complètement fou. Nous, on était au premier rang. Et on en a pris, mais plein la figure, plein la figure. Et non, franchement, Timios Funtas, bravo, félicitations. Et auditeurs de Radio Campus, allez voir ça. Allez
courez,
voir ça.
Courez ouais, voir, et courez somptueux. Voir Sauvé Bâtard.
D'accord, d'accord.
D'accord, d'accord. Non, franchement, absolument, complètement d'accord avec toi. Il faut absolument voir Sauvé Bâtard. Super texte, comédien incroyable. Bon, c'est une pièce qu'on peut pas voir, qu'on peut pas voir normalement. On peut pas voir des pièces comme ça. Merci beaucoup, Timios Funtas.
Oui, bah alors peut-être que Monsieur Funtas viendra oui. sur Paris. On vous préviendra oui. évidemment, parce qu'on va suivre ça.
Voilà. Oui, nous, maintenant, on est absolument fans.
Oui, oui, on
Merci.
Est complètement fans. Et voilà, donc on continue, on retourne au Théâtre 11 avec La Montagne Sacrée. Donc ça, c'est à 22h25, hein, c'est tard, mais nous...
C'est tard, il faut prendre un petit café avant.
Voilà, il faut prendre du fortifiant. Donc c'est le spectacle, c'est La Montagne Cachée. Quand on a demandé à l'impresario, je sais pas comment on dit, la quoi
La chargée de diffusion.
Voilà, la chargée de diffusion. Mais attendez, mais La Montagne Cachée, c'est comme La Montagne Sacrée, c'est comme... Mais effectivement, oui, ça c'est en fait la même histoire que Jodorowsky dans son film, mais là, en version théâtre. Et alors là, j'ai totalement découvert, j'étais pas du tout au courant, que ça venait en fait du livre. C'est un roman inachevé de René Daumal. Et qui a l'air d'être un sacré original. J'ai un peu regardé dans le dossier de presse, donc ça donne envie de voir un peu ces autres trucs. Et le roman s'appelle Le Mont Analogue. Alors j'ai oublié de vous dire, c'est une création collective qui est, comme ils disent, orchestrée par Jérémy Lelouet. Donc voilà. Et c'est avec les Dramaticules. Donc ça, c'est le groupe, quoi, la compagnie, effectivement. Et donc là, on rentre quand même dans une pièce à grand moyen, hein, gros moyen. Donc on commence avec, y a des caméras, il y a tout ça, il y a des images. C'est des images bien chiadées. Donc on retrouve finalement la trame du film de Jodorowsky. Le côté... éminemment délirant, avec ce gourou qui va coopter une troupe, pas une troupe, mais un groupe de personnes qui n'ont plus rien à perdre dans la vie, enfin non, justement, non, au contraire, qui doivent avoir quelque chose à abandonner pour montrer leur motivation et pour découvrir cette montagne. C'est une montagne cachée qui existe sur Terre, mais que l'on ne voit pas. On ne la voit pas parce que les rayons du soleil, je ne sais pas quoi, sont détournés et qu'il y a seulement des portes d'entrée assez rarissime pour pouvoir y accéder. La montagne, évidemment, comme image du lien entre nous, pauvres terriens, et puis au ciel, les dieux, hein, donc comme le mont Olympe. Et donc, ils vont grimper cette montagne, et puis vous découvrirez. Mais, évidemment, c'est une histoire pleine de rebondissements, enfin, avec des aventures, d'abord évidemment comme chez Jodorowsky, la présentation des différents personnages, donc ça c'est exactement comme dans le film, et puis ensuite ils partent à l'aventure, d'abord en bateau, ensuite en montagne. Alors je dois dire, peut-être si on doit émettre une petite réserve, tout est très beau, les images sont belles, les personnages sont rigolos, mais alors on voit vraiment le côté création collective. Donc on voit quand même parfois qu'on accède à un côté, on voit où les acteurs, en concevant la pièce, ont dû bien rigoler entre eux, et des fois c'est pas forcément communiqué au public. Mais en tous les cas, moi je retiens l'énergie, les personnages, le gourou est assez rigolo. Et moi j'ai plutôt bien apprécié. Mais toi, je sais, peut-être Camilla, on peut en discuter.
Mais écoutez, moi je suis.
Tu es plutôt réfractaire à l'humour, déjà,
oui,
ça on peut le dire. Quoi.
Oui, c'est vrai. J'aime pas.
Tu n'aimes pas rire.
Il faut dire que j'aime pas les pièces qui veulent faire rire les spectateurs. Et donc,
là, c'est très embêtant. Si vous n'aimez pas rire, n'y allez pas.
Oui, c'est ça. Et donc, par contre, j'étais un peu trompée par les images qu'on voit dans la présentation de la pièce, ça me semblait quelque chose d'un peu grave, alors que non, c'est très humoristique. Donc voilà, un peu, pour moi, le temps s'est dilaté. Hein. Une minute, ça valait quatre minutes. J'ai voulu sortir de la salle presque. Mais à un certain moment, il y avait cette bâche blanche à mes pieds. Donc, je n'ai pas pu sortir parce que sinon, j'aurais taché la bâche blanche. Donc, franchement, pour moi, c'était quand même très compliqué.
Tu aurais surtout risqué de rester bloqué dans la tempête de neige.
Peut-être.
Ça aurait été quand même incroyable.
Oui, c'est vrai. Et donc, pour moi, effectivement, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Complètement, donc moi j'ai pas du tout accroché, mais voilà. Après il y a des belles images, il y a quand même des choses, par exemple quand ils ont tous habillé en rouge avec leur
leur scène cap, en haut de la montagne,
ça, il y a quand même des très belles images, mais bon, pour moi ça m'a pas suffi.
Ça t'a pas suffi. Non, bon, écoute, moi je recommande quand même nos auditeurs d'y aller. Mais moi aussi, allez-y. Parce que c'est rigolo et puis c'est original, c'est. Voilà. Donc, non. Enfin, moi je dirais oui. Bon, toi, t'es vraiment récalcitrante. Hein.
Oui.
Bon. Écoutez les chroniques du passé et puis regardez en fait lesquelles vous préférez. C'est un peu comme, vous savez, dans les journaux musicaux. Hein, on retrouve la critique de Camila Pizzichillo. Bon, oui, mais elle me conseille à chaque fois des trucs de toute façon que j'aime pas. Donc bon, je vais même pas les lire. Donc voilà.
Sur le pont d'Avignon, on danse, sur le.
Écoutez, Guy.
Alors, et on passe maintenant à notre dernière chronique, I'm Deranged, du 4 au 8 juillet à 23h au théâtre de la Manufacture. Donc, c'est peut-être trop tard pour vous au moment où vous écouterez cette chronique pour aller voir cette pièce, mais vous pourrez sûrement la voir ailleurs. Donc, cette Solo in Scena de Mina Kavani, c'est une comédienne iranienne exilée en France depuis 8 ans, après sa participation au film engagé Red Rose de Sepideh Farsi. Alors, ces monologues autobiographiques nous décrit avec précision la peine de l'exil forcé. Il l'invite à retrouver un monde perdu à jamais, malgré la violence de la dictature et de la censure. J'ai beaucoup aimé entendre le témoignage de Mina Kavani sur sa vie en Iran avant son départ, en particulier la description de la schizophrénie entre l'attitude extérieure, donc l'attitude conformiste qu'il faut avoir pour ne pas avoir des problèmes avec le régime, et la vie à l'intérieur de chez soi, les fêtes sauvages, l'alcool, la musique, la littérature occidentale. Il y a plusieurs moments qui sont très touchants. Mina Kavani a une énergie incroyable qui nous transmet ce désir de retour impossible. Il y a un moment que j'ai particulièrement aimé, les moments où elle décrit son départ à 5 heures du matin avec son père en voiture, et là, à travers les fenêtres de la voiture, les vitres de la voiture, elle croise les regards de son chien, ce regard qui est tellement triste parce que son chien comprend que peut-être elle ne la reverra jamais plus, et elle ne se rend pas compte à ce moment-là qu'elle est en train de peut-être dire adieu à son pays pour toujours. Elle part, et je trouvais ça assez, oui, très triste, au montant très, très très fort. Toi, tu en as pensé quoi?
Alors, c'est sûr que oui, on peut que admirer et respecter cette actrice, hein, qui doit partir finalement parce qu'elle a, globalement c'est ce qu'elle dit, hein, montré ses seins et son cul à la caméra. Hein. Et donc c'est des choses qui ne se font pas sous le régime iranien.
Oui, après je pense que aussi les messages du film, c'était un message qui n'est pas conforme au régime iranien.
Tout à fait. Et évidemment, elle se retrouve en France, pays de liberté, blablabla. Mais
elle est 23 mètres carrés.
Et elle se retrouve en fait finalement pas si contente que ça. Donc en fait, on voit à quel point en fait elle était pas contente à Téhéran parce que évidemment elle vit sous le régime des ayatollahs. Et finalement, en France, là où elle a la liberté, elle est pas contente non plus. À Téhéran, en fait, finalement, elle va regretter ses fêtes secrètes. Ce côté un peu on va se brûler face à l'autorité,
c'est,
et quand même faire
sauvage,
ce qu'on veut, ouais, ce
oui.
côté sauvage qu'elle ne trouvera pas en France, mais en France elle pourra être totalement libre. Donc ça c'est très bien transmis dans le spectacle est visuellement magnifique, en plus à la fin d'une journée de théâtre dans la nuit, dans ce petit théâtre, c'est très beau. Après, bon, Moi, si je dois émettre un tout petit doute, c'est qu'évidemment, on a affaire à une personne qui vient d'une classe excessivement privilégiée, semble-t-il, hein, de ce que j'ai compris, mais je ne connais pas bien, donc à Téhéran, et qui finalement a un peu... il lui reste tout de même un choix. On a l'impression que son père pourrait éventuellement appeler l'un des ministres pour qu'elle puisse revenir, mais bon, finalement, non. Son père lui dit non, tu as fait ton choix d'artiste. Et donc voilà, donc ça, évidemment, on ne peut que respecter, parce que évidemment, moi j'ai fait le choix d'être spectateur et d'être dans l'ombre, et ensuite avec un surnom de faire des critiques à la radio. Donc évidemment, là on est sur un niveau de courage qui est quand même pas tout à fait le même. Mais voilà, je dirais quand même que non, c'est une belle pièce.
Moi, je trouve, je voudrais quand même faire une précision, Guillaume, parce que oui. Tu as dit, elle est finalement en France, mais pas contente. Moi, je trouve que c'est pas ça qu'elle exprime.
Non,
elle exprime,
c'est plus compliqué,
juste
bien
le
sûr.
Déchirement entre l'envie de suivre son désir, donc son désir d'art, son désir d'être comédienne, et l'envie quand même d'être entourée et de pouvoir retrouver ce qu'elle a vécu, sa famille, son enfance, son pays, qui malgré tous les défauts, ça reste quand même le pays où elle a grandi.
Voilà. Tout à fait, tout à fait. Mais évidemment, ça sont des choses auxquelles tu nous disais être beaucoup plus sensible. Et ça, c'est normal, toi, ta patrie italienne. Donc voilà, voilà, qui t'appelle, qui te manque. Et voilà. Donc, mais tout ça est très bien. Moi, c'est ma patrie de Palaiseau qui me manque tout le temps, que je porte dans mon cœur. Donc voilà. Allez-y,
je pense que
tous les deux, c'est un très beau
spectacle.
C'est une
bonne pièce pour terminer une journée à Avignon.
Oui,
pour
c'est plein d'énergie, c'est très très beau. Et donc voilà, donc, allez-y.
Voilà, nous sommes à la fin de notre périple à Avignon. Ces 48 heures sont passées très vite.
Absolument.
On a vu des pièces qu'on a absolument adorées. Pour ce qui me concerne, il faut absolument voir Bunker, Les Poids des Fourmis et Vivre.
Non, et puis Sauver Bâtard, excusez-moi.
Ah oui, Sauver Bâtard. Notre coup de cœur commun.
Oui, Sauver Bâtard, vous allez vous le prendre dans la gueule, là, c'est magnifique. Mais mais toutes les pièces sont magnifiques. Malheureusement, on serait bien resté beaucoup plus longtemps pour voir plus de pièces et puis pouvoir vous parler de plein d'autres pièces.
Et on part pas d'Ouïn. Mais pourquoi on part pas d'Ouïn? Parce qu'ils nous ont pas répondu.
Ils nous ont pas donné de place, évidemment.
Ils nous ont pas répondu. Festival Inn, ils étaient trop occupés. Mais peut-être une autre fois.
Voilà, donc nous ne sommes
dans tous les cas,
nous ne sommes
off,
pas in. Ça, c'est
oui,
terrible.
On n'est pas
on
in.
Est off.
On est off.
Voilà.
Allez au festival off.
Donc voilà, et écoutez, à bientôt, j'espère
sur Radio
que
Campus Paris.
Vous passez de bonnes vacances, toujours sur Radio Campus Paris, effectivement, et puis on se revoit à la rentrée pour Pièces Détachées, hein, n'oubliez pas, c'est un lundi par mois.
Oui, un lundi par mois, et mais on a oublié Guillaume,
qu'est-ce qu'on a oublié ?
Il y a aussi Julien et Alice qui sont allés voir une pièce, donc Julien et Alice, nos copains des Pièces Détachées sont restés à Paris, mais à Paris aussi il y a des pièces, parce que vous savez, il y a les Jeux Olympiques, il y a plein de choses, il y a aussi un festival qui passe en Île-de-France, et donc écoutez la petite chronique d'Alice et Julien.
Alors sur le vif, je suis allée voir hier un spectacle qui mérite le détour, Mon petit cœur imbécile. Le texte est de Xavier Laurent Petit, adapté par Catherine Verlaguet et mis en scène par Olivier Letellier. En scène, deux magnifiques jeunes artistes, Fatma Zahra Ahmed, danseuse hip-hop, et Romain Joe, interprète. La scénographie est de Valentine Nagata Ramos. Je vous invite à découvrir ce festival gratuit offert par la région Île-de-France. L'intention est de vivre des expériences théâtrales singulières, populaires, un peu comme dans la continuité des expériences menées par les fondateurs du Festival d'Avignon, où nous avons notre chroniqueuse préférée, Camilla, qui est allée batifoler. N'est-ce pas, Camilla ? Le Centre Dramatique National, les Tréteaux de France, a concocté la programmation du spectacle dont je vous parle, entre autres, une programmation éclectique dans des endroits où on ne s'attend pas à découvrir les arts vivants. J'ai donc vu hier le spectacle intitulé « Mon petit cœur imbécile » sous un beau chapiteau rouge qui a planté son mât dans l'herbe de l'île de loisirs de Créteil. Pourquoi est-il imbécile alors ce petit cœur ? On apprend vite qu'il ne marche pas bien. Akil, le personnage principal de l'histoire, a des problèmes cardiaques. Pour cela, ce théâtre de récits et de danse hip-hop raconte le parcours d'une mère qui tente par sa course folle à travers la savane de faire battre le cœur de son fils. C'est une histoire simple, touchante. Elle a captivé l'attention d'un public de tous âges. La mise en scène est originale. Elle place aussi le public au cœur de l'histoire pour saisir les mouvements du souffle vital mère-fils. La scène est à la périphérie du chapiteau et nous tournons sur nous-mêmes pour saisir le sens de toute l'histoire. Le duo danse-théâtre est pertinent et on vous invite vraiment à aller découvrir d'autres spectacles. Le prochain sera du cirque, We Agree to Disagree. C'est libre, gratuit et fantastique. À bientôt.